c'est vraiment des hauts, des bas, et c'est régulier. Peut-être pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, ouais.
C'est l'heure des médicaments.
Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit.
On reconnaît une société à la façon dont on traite les fous.
Pendant que les psychoses,
le monde crise, moi aussi.
Il n'y a pas la folie d'un côté, puis l'intelligence de l'autre. Un type qui n'est pas fou du tout, c'est plutôt louche. C'est une somme de folie plus grave.
Une série du J'aime le Nouveau Cap, groupe d'entraide mutuelle.
Épisode 2.
Chaque rechute, je tombe de haut. Le retour à la réalité me semble d'une brutalité, tel un tourbillon qui balaye ma vie. Mes bas m'emportent dans ma tourmente et mes hauts me font défaut. Mon désir, d'oublier mes angoisses, de recommencer une nouvelle page où tout semble devoir être réécrit. Mes voix me donnent des frissons, mon cœur bat à l'unisson. Je ressasse mes pensées, alors ma culpabilité me dévore. Et Nadia, Christian, Marie, qu'ont-ils ressenti?
C'est une peur du vide, une mauvaise image de soi, le manque affectif, une peur de l'abandon, et des troubles de la personnalité, des addictions, ça peut être les addictions affectives. Je m'attachais énormément aux gens, aux professionnels, à ma conseillère principale d'éducation, enfin, vraiment à ses référents qui m'aidaient et qui m'écoutaient. Et quand il y a eu la fin du collège, mais ça a été pour moi un tsunami, quoi. J'ai eu énormément de difficultés. Il y a eu, vers l'âge de 15 ans, les premières angoisses. Pour m'aider, il y a eu les somnifères. Mais j'en faisais un usage pas... Enfin, je respectais pas l'usage et les doses. Donc, je les prenais en journée quand ça allait vraiment pas et que j'avais besoin de dire à un adulte « Aidez-moi, help, quoi, parce que je gère plus, là. Il faut que vous m'aidiez, il faut que vous soyez là, il faut que vous fassiez quelque chose. »
Ma vie a mal débuté. J'ai commencé à parler à l'âge de 6 ans, en étant bègue. Compliqué pour moi, je n'avais pas de copains. Je suis parti en apprentissage à l'âge de 14 ans en 1965, avec toujours le même problème de parole, donc la moquerie était facile pour moi, pour eux, quoi. Sur les chantiers en apprentissage, mais c'était affreux. Il y avait les plombiers, il y avait les chauffagistes, il y avait les plâtriers, enfin, il y avait tous les corps de métier. Mais ça les amusait de me faire parler pour se moquer de moi, quoi. J'aurais pas dû faire le service militaire, mais... Et là-bas, ils m'ont dit, votre bégaiement vous empêchera pas de tenir un fusil. Donc j'étais apte. Et pour être un homme, il fallait boire 2-3 verres de vin en casse-croûte. À l'époque, c'était comme ça. Si tu buvais pas, t'étais pas un homme. Et puis moi, je suis tombé dedans. Je suis tombé alcoolique. Mais là, je bégayais plus, puis j'avais plus peur de personne. Alors je cherchais la bagarre. Pas de qu'à trouver. Moi, j'étais un bon ouvrier, travailleur, mais avec un défaut, quoi. C'était 15 bières et puis 15 verres de vin par jour.
J'avais déjà une fragilité à la base, puisque j'avais un généraliste qui m'avait dit que j'avais besoin d'une vie reposante, stable et équilibrée. Et en fait, je me suis retrouvée avec un métier qui m'a demandé énormément d'énergie, dans des conditions humaines très difficiles. J'ai subi aussi du harcèlement moral au travail. Donc du coup, ça m'a mis dans un état de stress énorme. Et j'ai perdu pied et voilà. Comment est arrivée la première crise?
Au fil du temps, il y a eu l'adolescence, vers l'âge de 16-17 ans, les premières prises d'alcool. D'abord, c'était l'alcool festif, avec les copains, les copines, en soirée. Et puis, vers l'âge de 21 ans, j'ai eu mes premières expériences d'indépendance, de quitter le foyer parental et d'avoir mon chez-moi. Bon, c'était particulier. En fait, j'avais un studio juste à côté de la maison de mes parents. Ils avaient toujours un œil sur moi. C'est là où j'ai commencé à boire toute seule, donc le soir. Et puis, un an après, en 2012, j'avais 22 ans, j'ai vraiment déménagé. Donc là, j'avais vraiment mon chez-moi où je devais rendre des comptes à personne. Et puis là, ça a augmenté, l'alcool, les médicaments. J'ai fait un burn-out au boulot. Je me mettais tellement de pression, tellement la barre tellement haute. Je me mettais une pression de dingue. Pour compenser ça, je buvais. Ça m'aidait. Enfin, c'est ce que je pensais. Mais ça m'aidait pas finalement. Il y a eu un jour où j'ai été trop loin et j'ai pas pu aller au boulot. Et puis c'est là que je me suis dit, mais c'est plus possible, je gère plus, il faut que je demande de l'aide.
Et en 76, j'ai décidé d'arrêter. Enfin, on m'a bien aidé, j'étais me faire soigner à Thouars. Et ça fait 46 ans. Depuis 46 ans, j'ai pas touché de cigarette ni une goutte d'alcool. En 74, c'était la première crise pétrolière. Il n'y avait plus de travail dans le bâtiment à Brossure. Et Michelin à Cholet cherchait des électriciens. Moi, j'étais électricien bâtiment. Au début, on changeait tous les 4 semaines. Il y avait l'esprit famille, il y avait 3 équipes, l'équipe A, l'équipe B, l'équipe du matin. On se connaissait tous. En 79, on est passé à 3 semaines. En 84, on changeait toutes les semaines. En 96, ils nous ont mis en 4-8. Et en 98, pour faire les 35 heures, on travaille tous les jours. On continue samedi matin, samedi tantôt, samedi soir, dimanche matin, dimanche tantôt, dimanche soir, ça ne s'arrêtait plus. Il y avait un quart de ramassage. En 92, ils ont supprimé le quart de ramassage, et puis après ça, quand ils nous ont mis en 7 sur 7, là. Et là, je n'ai pas touché, enfin, j'ai eu le choc 6 ans et demi. Puis là, j'ai commencé à prendre des somnifères pour dormir. Je dormais mal la nuit, mais le matin au boulot, j'étais dans les vapes. Alors, je me suis pris la tête plusieurs fois avec mon chef. Et puis, ils m'ont licencié à l'âge de 56 ans. Au bout de 32 ans de boîte, j'étais licencié. J'étais plus bon à rien. J'étais, moi qui avais travaillé toute ma vie, l'on m'achetait comme un chiffon, quoi. Je ne connaissais pas la psychiatrie. Hein. 8 jours après, j'étais en psychiatrie à Thouars pendant 3 semaines. Et puis là, c'est la galère qui a commencé.
Lors de la dernière crise, l'élément déclencheur, c'était en fait un dosage médicamenteux qui n'a pas été le bon. On m'a augmenté la dose d'un médicament que je n'ai pas supporté, en fait, et donc ça m'a déclenché une crise, et qui a duré 2 semaines. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé à ce point, il y a 20 ans. Et à l'époque, j'avais été hospitalisée, mais là, je n'ai pas voulu, en fait. Cette crise-là, je l'ai passée 2 semaines chez moi, un peu isolée, mais par choix. Et du coup, peut-être que si j'avais été hospitalisée, ça n'aurait pas duré aussi longtemps et ça aurait été plus sécurisé.
Quand j'ai fait mon burn-out en 2014, il y a eu un traitement plus lourd. Il y a eu les antidépresseurs, les benzos, les somnifères. Et là, c'est pareil. Il y avait une prise plus importante que ce qu'il fallait. Avec en plus l'association avec l'alcool, donc ça faisait pas bon ménage. Je me shootais, en fait, j'avais besoin de ça. C'était souvent le soir, en rentrant du boulot, parce que au boulot, il y avait plein de contacts. Et ça remplissait mes journées. Tandis que quand je rentrais à la maison le soir, je me disais, bah merde, il n'y a plus rien. J'avais beau avoir mes animaux, c'était pas assez. Et, Et j'avais besoin de pallier à ça, au vide, au manque. Et le temps passait, je me shootais, j'avais besoin de me shooter. J'avais besoin de relâcher la pression et d'être bien, quoi, d'être apaisé.
C'est-à-dire qu'un anxiolytique permet d'atténuer le stress, mais il y a, par exemple, le neuroleptique ne le fait pas toujours. Le neuroleptique peut mettre sous pression, en fait. Bah, ça speed un peu, donc ouais. C'est pour ça qu'il tempère avec des antidépresseurs ou des choses comme ça, parce qu'ils essayent de trouver la bonne recette selon chacun, mais en fait, c'est très compliqué. Il n'y a pas eu du tout de retour là-dessus. En fait, ce qui s'est trouvé, c'est qu'en fait, ils ont, à partir de cet événement-là, plus tard, un autre médecin a déterminé un autre diagnostic.
Pour des parents, perdre un enfant, c'est affreux. Malheureusement, il est décédé en 2009. C'était hier. Hein. Moi, j'ai eu le choc pendant 3 ans. J'étais fort. Mais j'ai craqué au bout de 3 ans. Alors là, j'ai fait des séjours en psychiatrie. Je dormais plus, je mangeais plus, je ne savais plus ce que je faisais, je ne savais plus ce que je disais, j'étais perdu. J'étais 3 semaines à devoir. Je suis revenu à la maison pendant 9 jours et je suis retourné à voir dans 15 jours. L'infirmière avait peut-être en avoir marre de me voir. Elle m'a fait déshabiller, elle m'a fait mettre à poil. Puis mes vêtements dans un sac. Et c'est Madame Goguet, une blonde, qui est venue, qui m'a dit « Je vais vous aider. » Ben, j'ai dit « En quoi fais-t-on ? » Elle dit « Je vais vous garder et chez nous, on va vous aider. » Puis c'est un mot qui m'a fait du bien. Ben, j'ai dit, comment je vais faire pour aller au secteur 8, je n'ai plus de vêtements. Elle m'a dit, on va vous donner vos vêtements. Elle m'a donné un petit comprimé qui m'a soulagé. Elle m'a emmené dans ma chambre une demi-heure après, même pas une demi-heure, 20 minutes après, elle est revenue avec une timbale, avec un petit comprimé, puis j'ai dormi après. Je pensais que je n'allais pas dormir, j'ai dormi.
Moi, j'ai une envie de m'isoler quand je suis en crise. D'abord parce que j'ai pas envie d'embêter les gens. J'estime que tout le monde a ses problèmes et que je veux pas apporter mes problèmes aux autres pour qu'ils aient plus de choses à gérer. Il y a de l'isolement, il y a un sentiment d'oppression, un sentiment de vide, ou au contraire d'être tourmenté, d'avoir beaucoup beaucoup de choses dans la tête et de ressentir énormément de pression, la tristesse qui augmente tout ça, une espèce de colère que je peux pas exprimer, qui va rester en moi, qui va grandir, qui va bouillir et que je vais pas maîtriser, mais que je vais pas savoir l'exprimer, donc elle va se retourner contre moi.
Un peu paranoïaque, quoi, un peu sur la défensive, mais pas agressif pour autant, un peu suspicieuse peut-être, très fatiguée certainement. Alors, je travaillais pas à ce moment-là, mais c'est vrai que je ne suis pas sortie de chez moi, justement, parce que je me sentais pas en capacité de voir du monde, en tout cas. J'ai perdu pied par rapport à la réalité. Ça a été progressif. J'ai eu des hallucinations, un état de paranoïa. Il y avait une désorganisation. J'en étais donc à mentir un petit peu pour cacher ma situation. Je disais que tout allait bien alors que je n'allais pas bien, mais je pense que j'en avais seulement à moitié conscience.
Quand j'étais en crise et que je me shootais, j'étais bien, j'étais apaisée, j'étais cool, relax. Mais après, il se passait un peu de temps et en fait, j'étais pas bien. C'était pire, ça augmentait et en fait, j'étais pas bien du tout. C'est comme si j'étais complètement stone. Et ça amplifiait le vide et le manque et les angoisses. Et là, c'était impossible à gérer, ça. Je me mettais dans des situations où je me fais des films et je me dis, je suis toute seule, tout le monde me zappe à l'extérieur. En moment de crise, Oui, j'ai l'impression d'être seule au monde.
Ah bah oui, tous les mois. Ben, on l'a vu hier. Mais c'est un psychiatre, il... ça va, vous dormez bien. En même temps, il tape l'ordonnance et puis en 2-3 minutes, c'est fait.
Un des traits de ma maladie, c'est aussi la dépression. Et que mon quotidien est quand même fait de différents symptômes. Comme l'anxiété, comme des états dépressifs, mais c'est variable en fait, ça bouge dans le temps et c'est suffisamment gérable au quotidien pour ne pas parler de crise et ne pas aller en hospitalisation. Donc si on m'a augmenté ce traitement, c'était parce qu'à un moment j'allais moins bien, c'est vrai, mais ça n'était pas plus inquiétant que ça. C'est une phase que je traverse. Des fois seul, sans soutien de médicaments, juste avec des consultations plus régulières. Et puis, ça se passe avec un peu de repos et ça passe. L'état de fatigue joue énormément. Quand je suis trop fatiguée, en fait, je commence à perdre pied. Il y a des symptômes qui se développent beaucoup plus. Et après, par contre, je ne peux plus gérer, en fait. J'arrive plus à retomber sur mes pieds. Donc, c'est vrai que le repos est très important.
Il y a eu des crises vraiment plus fortes. Oui, j'ai fini aux urgences.
L'an passé, j'ai fait 3 tentatives. J'étais monté sur ce pont le 26 janvier, le samedi soir, à 23h. Ça lui fallait 2 secondes. Il y avait une marche de 22 mètres. Une voiture qui s'est arrêtée. Enfin, mais ne faites pas ça, ne faites pas ça. Puis... je me suis retourné, il y a une main qui s'est mise sur mon épaule, qui me retire en arrière. J'avais laissé ma montre, mes lunettes dans ma voiture à 500 mètres, avec une lettre que j'avais écrite, mon nom, mon adresse et tout.
En 2017, j'ai été reconnue et ça a éclairé un peu les choses. Ça m'a fait du bien d'avoir des mots posés sur ce que j'avais. Ça m'aidait à comprendre. Je me suis dit... ah oui, quand même, voilà, c'est ça. C'est pas du chiquet, c'est pas... Je fais pas semblant, quoi. Il y a vraiment une maladie. Ben, je pense que j'ai bien avancé et rien que le parcours que j'ai eu, ben voilà, je me dis, j'ai gagné, entre guillemets. Je suis abstinente à l'alcool depuis le 18 novembre 2018. Alors ça, c'est une victoire de fou, hein. Franchement... bon, les médocs, ça arrive de temps en temps. Et aujourd'hui, de ces restas, je suis out. Avant, il m'en fallait 10, 20. Donc là, il m'en reste plus que 2 dans mon stock. Donc je sais que vraiment, me shooter, c'est une dernière fois. Et après, il n'y a plus rien.
L'hygiène de vie dont je parle, c'est surtout du repos. Ça ne veut pas dire que je ne fais rien, mais ça veut dire que je dose mes activités. Je m'écoute énormément, en fait. J'évite la surcharge physique, nerveuse. Je prends le temps de faire les choses, en fait. Un petit plaisir est super important, on ne se rend pas compte, mais finalement... prendre soin de soi, prendre soin des autres, partager un petit plaisir et tout, ça fait énormément. C'est ça plus ça plus ça qui font que ça change les choses.
Je pense qu'il y a aussi le temps. Gérer la crise avec le temps.
Là, le gym, j'y viens 3-4 fois par semaine. Que mon gym m'en fait une pièce de théâtre. Hier, j'ai parlé pour la première fois. À 72 ans. On m'a applaudi. Je savais plus dire je t'aime. J'ai retrouvé le mot aimé avec le j'aime. J'aime soleil et j'aime le verbe aimer. Sans le j'aime, je suis plus là.
Les hommes sont des orages. Leurs ombres des murmures, les femmes ne sont pas sages, les feux du cœur s'emmurent, Il rêve et choupe parfois, et sur les trottoirs s'abîme leur foi d'être et de savoir, et ils renoncent à se voir. Les hommes sont de passage, leurs esprits se fissurent. Les hommes ne sont pas sages, les doutes dorment en lieu sûr. Et c'est là qu'ils sont beaux, déconstruits, retaillés au rabot, tombés des cieux proches du soleil. Les hommes meurent et s'émerveillent à l'orée des dernières folies, ôtés de nos mélancolies. Les vents nocturnes psalmodient, quelques psaumes maudits. Les hommes prennent le large, leurs enfants seuls sont mûrs. Les femmes résident en marge, enlacées par des murs. Et dans l'enfer de la petite sphère, mal alpha va en guerre. La langue s'en délecte les papilles, elle vous dévore de ses pupilles. Pour recracher enfin le dernier soupir, et le mot de la fin ressuscé en bon vampire. Les hommes sont des orages, leurs ombres des murmures. Les femmes ne sont pas sages, les feux du cœur sans mur. Les hommes sont des orages, leurs ombres des murmures. Les hommes ne sont pas sages, les feux du cœur sans mur. Les feux du cœur sans mur, les feux du cœur sans mur.
À suivre, épisode 3, je deviens impatient.